Vous êtes sur RTL.
Merci beaucoup Pascal, à demain sur l'antenne d'RTL. On est fait pour s'entendre, c'est aussi l'émission des grandes rencontres. Dans un instant, vous allez écouter le parcours de Virginie Delalande, la première avocate sourde de naissance en France et désormais conférencière. Elle est notre invitée sur RTL jusqu'à 15h30 et paf générique.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux, je vous remercie pour votre fidélité à En effet pour s'entendre, ce magazine sur RTL qui vous ressemble. Ici, tous ensemble et chaque jour, entre 14h30 et 15h30, on réfléchit, on s'intéresse, on s'éveille et on s'ouvre à l'autre. Oui, parce que c'est quand même ça qui est le plus passionnant en ces temps de repli imposé. Et justement, c'est à un grand entretien que nous vous convions aujourd'hui. Un entretien dans le pays du silence. Enfin, pas tout à fait, mais c'est justement ce que va nous raconter notre invitée Virginie Delalande. Première avocate sourde de naissance en France, femme inspirante de l'année 2020 selon le magazine Forbes. Virginie, elle a tout défoncé et rien ne l'a stoppée, avec un sourire toujours arrimé à son visage. Elle est en train de me regarder dans ce studio, elle a son sourire. Elle a appris à lire sur les lèvres, elle a appris à parler alors qu'elle ne connaît même pas le son de sa voix. Elle a fait de hautes études, elle s'est accomplie en tant que maman, en tant que femme, et on a beaucoup à apprendre en l'écoutant, nous qui en avons la chance. Virginie Delalande, bonjour.
Oui, Flavie.
Je suis tellement contente de vous rencontrer. Vous êtes coach, conférencière, fondatrice du Handicap Power, on en parlera tout à l'heure. Et vous êtes donc notre invitée, l'invitée de nos auditeurs, jusqu'à 15h30 sur RTL. On va revenir un petit peu sur tout votre parcours, parce que on n'aurait pas pu imaginer, en fait, il y a peut-être 10, 20 ans de cela, que l'on serait en train de se parler dans ce studio. C'est-à-dire que vous êtes la première avocate sourde de naissance en France, ce qui veut dire que, dès le départ, les pronostics n'allaient pas dans le sens de la communication.
Pas du tout. Ouais. D'ailleurs, ça a commencé assez jeune, ces petits pronostics assez négatifs, puisque il y avait 9 mois. Quand on a diagnostiqué ma surdité, et on a dit à mes parents, votre fille est sourde, virgule, elle ne parlera jamais.
Ouais. Comment vos parents ont-ils réagi face à ça?
Ah bah, évidemment, assez mal. Ouais. Ça, il faudrait, ils se sont dit, mais comment cela se fait-il? Nous n'avons personne de la famille concernée par la surdité. D'où ça vient? Lequel de nous est responsable?
Ouais. La culpabilité souvent des parents.
Ouais. C'est ça. Et pas souvent que je suis la mère d'ailleurs. Non, plaisante, mais là, on a eu la réponse quelques années plus tard, en fait, c'est génétique et récessif. Et mes deux parents sont responsables.
Alors voilà, donc les deux parents sont responsables, on les embrasse, ça c'est une chose. Mais ce qu'il y a de... Si je vous pose cette question sur la réaction de vos parents, c'est qu'en tant que parent, quand on entend votre enfant n'entend pas et donc ne parlera jamais, est-ce que l'on baisse quelque part les bras ou est-ce qu'on encourage son enfant à défier les pronostics?
Alors, je pense qu'il y a eu un petit peu des deux.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a promené un effondrement psychologique, je me suis dit... Mais en fait, tout ce que je lui dis, depuis sa naissance, elle n'entend rien. Je t'aime, n'est ma petite chérie, bisous, bisous, va dormir, tiens ton petit biberon, tous les petits mots d'amour, ma fille ne les entend pas, ne les entendra jamais. Et en plus, je n'entendrai jamais moi, maman, papa.
Ouais.
De fois des parents, c'est absolument terrible. Et ensuite, on a une deuxième problématique, c'est les autres, le regard des autres, la place de l'enfant de la société. Que va-t-il devenir? Comment va-t-il grandir? Comment puis-je, moi, en tant que parent, l'accompagner pour qu'il soit heureux dans sa vie plus tard? Je vois bien, quand même encore aujourd'hui, être heureux n'est pas forcément évident. Alors, si vous rajoutez un handicap, aïe.
Oui.
Et donc, le premier... réflexe a été de baisser les bras. Et ensuite, mes parents ayant 20 ans et l'insouciance de cet âge-là, se sont dit, ok, pas que tout, notre fille parlera et elle se sortira de la vie, on ne sait pas comment, mais on va y arriver.
Donc ça veut dire qu'ils vous ont insufflé cette force qui est la vôtre aujourd'hui, dans l'éducation qu'ils vous ont donnée. C'est passé par quoi? Comment vous ont-ils donné toute cette force-là?
Alors, je pense que c'est à partir une question de tempérament.
Ouais.
Que ce soit des gens positifs par nature, des gens qui ont toujours voulu aller au-delà de leur condition initiale. Mon grand-père, par exemple, est ouvrier à la Seine et est devenu professeur à l'école centrale de Lyon au cours du soir. Donc, il y avait déjà, dans ma génétique, des parents, des grands-parents, qui avaient une volonté un petit peu tenace.
Donc, ça veut dire aussi, Virginie Delalande, que vos parents vous ont permis de vivre rapidement, normalement, autant normalement que possible?
Alors, ils ont commencé par traiter l'aspect médical, c'est-à-dire une fois qu'on avait compris le degré de ma surdité, qui est quand même très important, à savoir au-dessus de la surdité totale. Donc, le téléphone, on oublie, tout ce qui est odieux dans la vie de tous les jours, on oublie. Et l'objectif était d'essayer de pallier au maximum par la technologie. Alors, avec les limites
de l'époque,
qu'elle avait à l'époque et qu'elle a encore aujourd'hui. Donc, on m'a appareillé.
Alors, on va se retrouver dans un instant, parce qu'effectivement, vous avez été appareillé, vous avez été implanté aussi. Oui. Et puis, il y a quelque chose de dingue qu'on va partager avec nos auditeurs, mais ça, c'est vous qui allez le raconter. C'est comment est-ce que l'on apprend à lire sur les lèvres et comment est-ce que l'on apprend à parler quand on n'entend pas sa propre voix. Et ça passe par les émotions, les sensations physiques. C'est un plaisir de vous recevoir. On se retrouve dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Jusqu'à 15h30 en compagnie de Virginie Delalande. Surtout restez avec nous car Virginie nous raconte son parcours. Elle est coach, elle est conférencière, fondatrice du Handicap Power. Virginie n'aurait jamais imaginé, peut-être enfant alors que on découvrait sa surdité profonde, n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour s'exprimer de la sorte à la radio, nous raconter sa vie et être l'auteur d'un ouvrage abandonné, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Et ça, on le comprend quand on vous rencontre. Virginie, vous nous avez expliqué que vos parents déjà étaient des gens optimistes et avaient décidé que votre vie ne se résumerait pas à ce monde du silence qui est le vôtre. Est-ce que c'est vraiment un monde du silence?
Non. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement peu en France à avoir une surdité totale. Quand on parle de surdité aujourd'hui, c'est une surdité qui, sans appareil, sans aide, ne nous permet pas d'avoir le même degré d'information que tout le monde. Dans mon cas, même avec un appareil, malheureusement, je n'y arrive pas.
Ça veut dire que vous entendez quand même quelque chose?
Oui, ça veut dire que j'entends quelque chose. Mais pour vous donner une idée, sur mes appareils, le seul bruit que j'entends est celui d'un avion qui décolle.
C'est pas...
Et il peut... que je sois sur le tarmac, donc à 20-30 mètres de la piste de décollage.
Donc c'est super désagréable, ou pas? Ou en même temps,
non,
vous avez toujours vécu avec ça?
J'ai toujours vécu comme ça. En revanche, avec mes appareils, j'entends un petit peu mieux, c'est-à-dire que je n'entends pas les aigus, mais j'entends les grammes.
Mais quand je vous parle, là, vous ne faites que lire sur mes lèvres. Vous n'entendez pas ma voix.
Alors, ce n'est pas que je n'entends pas votre voix, c'est que ça fait une espèce de brouhaha complètement indistinct. Okay. Vous n'arrivez pas à décrypter les sons que vous émettez.
Vous nous avez expliqué il y a un instant que vos parents ont décidé de déjouer les pronostics et d'en appeler donc à la médecine. Donc, vous avez été appareillée, vous aviez quel âge?
J'avais un an.
Un an. Oui. Ensuite, vous avez été implantée. Donc ça, c'est pas la même chose.
Pas du tout.
Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, la différence, c'est que l'appareil sert juste à amplifier des sons que l'oreille entend naturellement. Donc si, par exemple, comme dans mon cas, vous n'entendez pas les aigus, même si on amplifie, vous ne les entendrez jamais. L'implant est une opération chirurgicale qui permet d'introduire dans la cochlée des électrons qui permettent de remplacer ce qui ne fonctionne pas de cette partie de l'oreille. Et donc, grâce à ça, si vous n'entendez pas les aigus, vous pouvez les entendre.
Et en même temps, il faut que l'implant soit bien posé.
Exactement. Et ce qui n'est pas mon cas, malheureusement.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu un problème au départ.
Il y a eu un petit problème de pose. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des électrons qui ont été posés dans l'oreille moyenne et non pas dans la cochlée.
Et on peut réopérer pour repositionner un implant ou pas?
Alors, en théorie, oui. Dans la pratique, c'est extrêmement difficile parce que c'est une opération qui coûte très cher. Et en fait, comme ça fait plus de 20 ans que je me suis fait opérer, là où le fil aurait dû aller, il y a sûrement des cheveux qui ont dû se construire depuis. Des tissus, des... Ouais. Et donc, on a peur que si on réopère, vu le coup, qu'on réopère pour rien, parce qu'on n'arrive pas à introduire ce fil là où il devrait être.
D'accord. Alors, vous avez un jour décidé d'accéder au monde qui vous entoure, oui. Et de comprendre. Et tant mieux pour nous, parce que c'est un plaisir de vous rencontrer et de communiquer avec vous.
Merci.
Comment est-ce que vous communiquiez avant d'apprendre à lire sur les lèvres?
Mais c'est-à-dire que j'ai toujours été très observatrice. Et je pense que je fonctionnais un petit peu comme les animaux, c'est-à-dire les chiens qui passent leur temps à observer leur maître. Et puis à imaginer le comportement qu'il va avoir.
Donc ça veut dire que ça a d'abord été de la sensation,
hein,
de l'observation pour appréhender les choses. Et puis un jour, vous vous êtes dit, bon, moi maintenant, je veux comprendre. Donc, vous avez appris à lire sur les lèvres des mots que vous n'aviez jamais entendus.
Exactement.
Comment on fait?
Alors honnêtement, pour cette première partie, je ne sais pas. Mais qu'en fait, j'ai appris à lire sur les lèvres avant de savoir parler,
c'est ça.
Avant de savoir lire et écrire. Donc, je pense que ça s'est vraiment fait de manière très attractive, mais ça se réduisait à des mots très faciles. Oui, non, maman, papa, et l'orthophonie, en me faisant apprendre à lire et à parler, m'a permis d'étoffer finalement mon registre de vocabulaire.
Alors, qui évidemment s'apparente à nous qui maîtrisons complètement l'oralité, mais vous avez aussi appris à parler.
Oui.
Et ça, c'est un truc de dingue parce que vous avez appris donc à sortir des sons que vous n'avez jamais entendus.
Tout à fait.
Alors, comment ça se passe?
Eh bien, la chose que nous avons tous les bébés, qu'ils soient sourds ou pas, c'est que nous babillons tous à la naissance. La différence entre le bébé sûr et les autres, c'est que le bébé sûr ne voit pas l'intérêt du babillage puisqu'il n'entend pas nos paroles lui répondre.
Bien sûr.
Donc au bout d'un moment, il finit par se taire. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui avait très bien compris que le babillage pouvait servir de support pour rajouter des sons supplémentaires. Donc, mon objectif au départ était de stabiliser ce babillage, c'est sûr que je produisais naturellement. Et ensuite, à partir de là, construire un par un tous les autres choses.
On va se retrouver dans un instant parce que j'ai encore des questions à vous poser. Vous savez que quand vous parlez, et vous parlez très bien,
merci,
vous accompagnez vos mots de gestes.
Oui, je suis très italienne.
Comme... Ouais. Comme si quelque part aussi, vous appuyez votre langage par des gestes pour mieux faire comprendre à votre entourage. On va se retrouver dans un instant. Voilà, on est avec Virginie Delalande qui n'abandonne jamais, vous l'avez bien compris. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand, oui, mais toute seule, je n'arriverai pas à vous faire de belles émissions comme ça. Alors d'abord, je remercie évidemment toute l'équipe qui travaille avec nous. Et puis Virginie Delalande qui a accepté notre invitation jusqu'à 15h30 pour un grand entretien. Je vous conseille son livre aux éditions Kawa, Abandonner jamais. Elle n'a jamais abandonné Virginie Delalande. Elle parle aujourd'hui sur cette antenne. Vous maîtrisez l'oralité, alors qu'au départ, ce n'était pas gagné du tout, puisque les médecins disaient à vos parents, elle ne parlera jamais puisqu'elle est sourde. Et vous avez donc appris à parler des mots, vous avez dit des mots que vous n'avez jamais entendus. Alors, racontez-nous, si vous le voulez bien, ce travail passionnant avec l'orthophoniste pour vous permettre à un moment donné de prononcer des sons que vous ne connaissiez pas.
Alors, ce travail passionnant pour vous, très chiant pour moi.
Ça ne m'étonne pas du tout, c'est ce que j'allais vous demander après. Ça doit être très chiant et très difficile.
Oui, de me passer. Pour vous répondre, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est parti du babillage
ouais.
pour construire les autres choses. Et puis, il y a certains sons comme le R.
Voilà.
Qui sont un petit peu étranges. Et là, on a utilisé tout ce qui est sensation. Donc, par exemple, je posais ma main sur la gorge de mon orthophoniste. Ça faisait des roulements. Et j'essayais de les reproduire. Après, on avait d'autres sons beaucoup plus subtils, comme le S. Le S, on ne l'entend pas, il ne se passe rien au niveau de la gorge. En revanche, il se passe quelque chose au niveau du souffle. Et donc là, on doit apprendre à contrôler ce souffle, à mettre les lèvres de la bonne façon, à ne pas souffler trop fort ou à souffler plus fort quand il faut parler plus fort. Et là, on utilise des feuilles, on utilise un verre d'eau pour faire bouger la surface, on utilise une plume, on utilise une bougie. Et donc, on s'amuse, entre guillemets, comme ça, pour justement arriver à produire le son le plus parfait possible. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'au bout d'un moment, on en a assez, évidemment. Donc, on se dit, bon, pff, je vais faire un S un petit peu puré. Et c'est là où l'orthophoniste nous dit, ça y est, c'est ça.
C'est dingue.
Sauf que, on ne sait pas du tout comment on a fait. On réessaye, on n'y arrive pas, c'est horrible.
Et combien de temps ça vous a pris de pouvoir former des syllabes, puis des mots?
Alors, en tout, cela m'a pris 20 ans. Après, j'ai eu des étapes. C'est-à-dire que j'ai eu un très, très gros travail de défrichement de la parole jusqu'à 8, 10, 12 ans. Où là, vous ne me comprenez pas du tout. Et à partir de là, comme évidemment j'arrivais à l'adolescence, que j'avais envie de me faire comprendre, pour entre guillemets avoir un amoureux, j'ai fait beaucoup d'efforts.
Tu m'étonnes.
Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment, vraiment affiner les choses pour être la plus normale possible. Alors, vous voyez bien, ce n'est pas génial, mais qu'aujourd'hui, je n'y arrive toujours pas.
Non, mais, et 20 ans à travailler donc pour être capable un jour de formuler des mots et de tenir une conversation.
Et de faire une radio.
Et voilà, pour pouvoir venir à la radio. Mais ce sont 20 ans pendant lesquels votre vie ne s'est pas arrêtée.
Ah, pas
C'est-à-dire qu'en parallèle, vous avez été confrontée à l'adolescence, à l'âge adulte, à vos études. Donc ça veut dire que vous avez mené plusieurs batailles de front, je dirais.
Exactement.
Et à partir de quand est-ce que vous avez senti que vous pouviez un peu vous reposer?
Maintenant, à 40 ans.
Ben c'est ça.
Non, plaisante, mais c'est vrai que jusqu'à 20 ans, on est quand même dans une période de construction globale, de soi, avec l'école, les études, etc. Ensuite, on arrive à la période où on va se stabiliser en couple, dans la famille, la maison, etc. Et aujourd'hui, je suis arrivée à une phase de ma vie où je ne suis plus dans la construction. Aujourd'hui, je profite de la vie comme j'en ai envie. Et ça, quand même, c'est très agréable.
Parce que vous avez coché toutes les cases, comme
Exactement.
On dit. Hein, c'est-à-dire que vous êtes maman, vous êtes accomplie professionnellement, vous avez donc un mari.
J'ai divorcé et bon, je refais ma vie.
Ça arrive, voilà. Évidemment, ça nous arrive à toutes hein, et à
mais
tous.
Mais enfin, je suis quand même restée 8 ans avec la même personne. Et puis, c'est une personne générale. Donc.
Mais parce que vous avez vraiment accompli tous ces domaines qu'on aurait pu... vous avez atteint tous ces domaines qu'on aurait pu vous imaginer difficiles à atteindre.
Bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour porter un message à toutes les personnes qui se sentent différentes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes différents que tout ça vous est interdit.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez fondé l'entreprise Handicap Power. On va en parler. Ces études d'avocat.
Oui.
On fait beaucoup d'émissions, nous, sur l'éloquence et on fait venir régulièrement des avocats aussi pour nous parler du pouvoir de persuasion, pour nous parler du travail que ça comporte. Ça a été difficile pour vous parce qu'on vous a mis des bâtons un peu dans les roues quand même.
Un petit peu.
Hein, pour le dire poliment.
Un petit peu.
On vous a demandé ce que vous faisiez là.
Exactement. On m'a demandé comment une personne comme moi pouvait prétendre exercer la profession d'avocat. Donc... pas très agréable à entendre. Et puis, indépendamment de ça, pendant très longtemps, on me disait, mais avec un client, comment vas-tu faire? Ma plaidoirie, comment vas-tu faire? Etc. Donc, moi aussi, je me posais ces questions-là. Mais en fait, à force d'avoir à la fois ces questions que je me posais et le renvoi des personnes en face, ça m'a découragé d'essayer. Aujourd'hui, j'aurai une position différente parce que j'ai compris que quand on essayait, on finissait à un moment donné par trouver le moyen d'y arriver.
Vous avez beaucoup tourné autour oui. des choses avant de trouver la porte d'entrée.
Exactement, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour faire gagner du temps aux autres.
On va se retrouver dans un instant à faire un tour par l'information sur RTL et vous allez nous délivrer des messages pleins d'énergie et d'espoir pour ceux effectivement qui nous écoutent et qui se disent mais j'y arriverai jamais en fait parce que vous avez fait carrément exploser le plafond de verre quoi. On se retrouve tout de suite sur RTL, place à l'info.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
En compagnie de Virginie Delalande, vous avez été parmi les femmes inspirantes 2020 du magazine Forbes.
Oui.
Faut se la péter un peu quand même.
Ah oui, j'ai été très surprise. Et j'ai vraiment pris comme un vrai cadeau de la vie, surtout en 2020 avec tout ce qui s'est passé.
Mais c'est sûr, mais tellement, mais on comprend. Donc on est ravis de vous avoir jusqu'à 15h30. Pour ceux qui prendraient l'émission en cours, hein, vous êtes coach, conférencière, fondatrice, on va en parler, du Handicap Power et vous êtes la première avocate sourde de naissance en France. Vous nous avez expliqué hein, il y a un instant et pendant toute cette première demi-heure les choses évidemment étaient plus difficiles pour vous en raison de ce handicap, mais que vous aviez décidé de ne jamais abandonner. Vous avez donc réussi à obtenir votre diplôme d'avocat. Vous avez exercé le métier d'avocat. Aujourd'hui, vous êtes sur d'autres projets, d'autres choses. On y reviendra. Je voudrais juste qu'on revienne avant de parler d'Handicap Power sur ce qui était votre rêve à une époque, qui était de prendre un téléphone. Quand vous êtes rentrée dans ce studio, vous m'avez dit « Attends, j'éteins mon téléphone. » Et pour vous, une conversation téléphonique, c'était quelque chose de...
Ah, mais c'était quelque chose...
D'incroyable.
Qu'on considérait comme le Graal.
C'est ça, je comprends.
Je voyais tout le monde passer son temps au téléphone, et puis rire, et pleurer, ressentir des choses, et moi, je n'y avais pas accès. Et aujourd'hui, avec les nouvelles applications et les nouvelles technologies, j'ai enfin accès au téléphone. Sauf que mon premier coup de fil, je l'ai passé à 36 ans.
C'est ça.
Et je ne savais pas comment commencer une conversation. Quelqu'un dit « Allô, bonjour ».
C'est dingue.
Terrible.
C'est dingue. Vous avez appris depuis. Mais c'est vrai que comme c'était un monde inconnu, vous ne connaissiez pas les codes d'une conversation téléphonique.
Pas du tout.
Et cette première conversation téléphonique, vous aviez un assistant vocal, en fait, qui retranscrivait les paroles de votre interlocuteur sur un écran.
Exactement. Alors, avant, je téléphonais, mais il y avait toujours une personne physique qui faisait la traduction.
Ouais.
Et je lui disais bien, tu me traduis tous les mots, même eux, ma mère. Donc, les gars étaient un peu stressés, parce qu'ils avaient quand même la pression. Mais j'avais déjà, en fait, eu des conversations téléphoniques, mais il fallait toujours qu'il y ait une personne disponible, que ce soit un bon moment pour ne pas la déranger, parce qu'elle pouvait avoir d'autres choses à faire. Et là, enfin, à 36 ans, je pouvais choisir tout seul au moment.
Ouais.
Et ça, c'est la plus belle des libertés.
Ouais, une grande liberté. Vous avez décidé de partager votre expérience à vous et quelque part aussi votre énergie qui vraiment transpire dans ce studio auprès de ceux qui auraient besoin de temps en temps d'un petit coup de boost. Mmh. Hein, ça s'appelle donc Abandonnez jamais. C'est un livre aux éditions Kawa. Et puis vous avez fondé l'entreprise donc Handicap Power. De quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit d'une entreprise qui a vocation de changer le regard de la société sur le handicap. Malgré pendant très longtemps, j'ai moi-même évidemment souffert de mon handicap. Je ne voyais que les barrières qui se dressaient devant moi, tout que je ne pouvais pas faire, que les autres faisaient. Et un jour, j'ai complètement changé mon regard. Je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Et je pouvais aussi de mettre au service de la société. Je me suis aussi aperçue de la richesse de la diversité. Je me suis aperçue que grâce au handicap, je dépassais en permanence les limites que la science connaissait. Que des croyances limitantes que tout le monde connaissait. Et je me suis aperçue qu'en fait, tout était possible dans la vie, y compris quand on avait un handicap. Sauf que on est juste capable autrement.
Vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre, les personnes différentes ont des richesses que n'ont pas les personnes plus dans la norme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la complémentarité.
Exactement. Non seulement c'est la complémentarité, mais c'est au plus de se dire, mais finalement, nous avons tous notre place dans la société. Personne n'est inférieur à quelqu'un d'autre.
On va se retrouver dans un instant parce qu'effectivement, on est tous, si on n'a pas tous les mêmes acquis et les mêmes chances, on est tous égaux. Et ça, vous avez raison. Et vous vous battez effectivement pour que on puisse à un moment donné se rencontrer les uns les autres et gagner en richesse. Vous nous parliez tout à l'heure de votre pouvoir d'observation, qui évidemment devrait servir dans l'entreprise. Et il y en a d'autres comme ça. Vous allez nous parler du talent des gens différents. Ce sera tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand.
Maire.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous en compagnie de Virginie Delalande. Virginie, quelles sont les choses que vous avez au-delà de votre personnalité, quelles sont les compétences que vous avez développées en étant vous-même atteinte de surdité que je n'ai peut-être pas moi-même?
Un certain nombre.
Laisse la pète.
J'ai peur de vous le dire parce que ça rire que de vous rendre jalouse.
Allez-y, on va voir, on va essayer.
Alors, la première, c'est que j'ai une vision latérale de 25% supérieure à la vôtre.
Ah ouais?
Oui. Non, mais plaisante, ça ne sert à rien, à part quand vous êtes aux trottinettes dans Paris.
Ouais.
Oui, à vélo, etc. Non, plus sérieusement, j'ai des qualités d'adaptation exceptionnelle. C'est-à-dire que, quelle que soit la difficulté à laquelle je fais face, j'ai toujours très rapidement une solution pour rebondir. Tellement j'ai l'habitude d'être entre guillemets dans la merde. Ensuite, j'ai également des capacités de lecture assez hors normes. C'est-à-dire que je lis un livre une journée, voire même deux livres par jour.
Eh ben moi aussi.
Ah, oui, mais alors attends, j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. J'ai la capacité de lire sur les lèvres, moi, madame. Comme dans les films.
Eh ben, moi, je les embrasse, les lèvres.
C'est votre merci. Et j'ai également, je pense, comme vu Flavie, la capacité à sortir les gens.
Ouais.
Savoir qu'il veut bien ou pas. Je me dis bien toute la vérité ou pas.
Ouais.
Et ça, c'est très pratique pour négocier des contrats à plusieurs millions.
Parce que si je vous demande effectivement ce que vous avez en plus de moi, ce n'est pas pour le jeu de la concurrence, parce que vous avez gagné, ça c'est
non,
sûr.
Non, mais bien sûr, vous plaisantez.
Mais c'est pour dire qu'effectivement, dans chaque personne différente, il y a eu le déploiement de compétences qu'on pourrait peut-être avoir nous, mais qu'on n'aura pas développées dans l'épreuve.
Exactement. Et puis, en plus, il y a vraiment cette idée que la nature est bien faite, ce qu'on perd d'un côté, on occupe de l'autre.
Ouais.
Donc, en fait, c'est comme le yin et le yang, on est équilibré. Le problème, c'est que la société ne voit que le négatif, qu'on ne peut pas faire, c'est compliqué pour nous, qui est défaillant. Au lieu de s'intéresser à ce qu'on a développé, pour repasser.
Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, parce que vous parlez de la société, ça veut dire que le monde du travail n'est toujours pas assez ouvert à la différence?
Non seulement le monde du travail, mais en plus le monde de l'éducation nationale.
Ouais.
Aujourd'hui, quand on est différent, on a toujours beaucoup de mal à rentrer dans le moule. Alors, bien sûr, il y a des progrès qui se font, il y a de plus en plus de personnes sensibilisées, de plus en plus d'actions, mais dès qu'on commence à chercher le petit diable dans les détails,
ouais,
on arrive à des solutions où on ne voit toujours pas de personnes en situation de handicap au gouvernement. On ne voit toujours pas de personnes en situation de handicap dans le commerce. On ne voit toujours pas de personnes en situation de handicap dans des postes où on se dit « waouh ». En fait, on ne voit que des gens avec des discours où on va avoir pitié. Où on va se dire, oh là là, la peur, c'est extraordinaire, elle est courageuse, etc. Mais on ne va pas aller voir tout ce qu'elle a de normal, de banal. Il y a la même vie que vous. Il y a certaines choses que je fais différemment. Il y a certaines aménagements à la maison que vous n'avez pas. Mais en revanche, je suis amoureux comme vous. Il y a des amis comme vous. Je fais la fête comme vous, etc. Et je trouve que vous ne banalisez pas assez la différence et ce qui nous rassemble. Vous pouvez trop suivre du doigt ce qui nous sépare. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que finalement, vous ne profitez pas de la richesse des uns et des autres.
Aujourd'hui, il faudrait que le monde de l'entreprise, le monde du travail évolue sur ces questions-là. C'est le but aussi de Handicap Power ?
Oui, c'est le but d'Handicap Power, d'autant plus que les entreprises ont vraiment intérêt à tabler sur la différence pour améliorer leur performance.
Bien sûr.
Et là, on n'est pas du tout dans le social. C'est-à-dire qu'il faut embaucher des personnes en situation de handicap pour répondre aux 6%. Là, on est vraiment dans le concret, dans le pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a différent, vous voyez toutes les failles de l'entreprise. Les failles dans les process, les failles dans les propositions de services, de produits, etc. Et donc, vous voyez au fait quels sont vos besoins à vous qui ne sont pas atteints, qui ne sont pas remplis par l'entreprise. Et donc, vous pouvez être fort de propositions pour élargir, en fait, le panel de clients potentiels. Vous avez également, surtout aujourd'hui, dans une situation qui n'est quand même pas très facile, des capacités d'adaptation qui sont hors normes chez des personnes différentes, puisqu'elles ne sont elles-mêmes pas dans le moule et passent leur temps à essayer de rentrer dans le moule. Ces personnes-là sont les premières à savoir s'adapter, à avoir le positif dans une situation difficile, à rebondir, à trouver des solutions. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on ne s'appuie pas assez sur ces personnes pour porter nos changements. Et c'est dommage.
Est-ce que toutes les personnes en situation de handicap peuvent contacter Handicap Power ?
Alors, les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont des handicaps de la vie, c'est-à-dire qui n'ont pas de handicap médicalement reconnu, mais qui sont freinés par des croyances, des barrières, tout le monde est le bienvenu.
On va se retrouver dans un instant avec vous, Virginie Delalande.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30,
Flavie Flamand sur RTL.
Virginie Delalande, je me dis que ceux qui vous écoutent comme ceux qui vous rencontrent, comme nous aujourd'hui dans ce studio, on a l'impression tout à coup que tout est possible. Donc ça nous fait du bien de rencontrer des gens comme vous. Ce qui est intéressant dans la mission de Handicap Power, c'est que en fait, vous voulez aider des gens à faire tomber les freins ou les obstacles qui se posent sur son chemin. Et c'est vrai que ça peut toucher tout le monde. Oui. Parce que, est-ce que la première des choses qui nous freinent, ce sont ces fameuses pensées, ces croyances limitantes? Est-ce que ça vient de nous aussi?
Ah ben bien sûr. Et c'est justement que j'apprends aux personnes qui viennent me solliciter, c'est qu'il y a effectivement d'une part le regard des autres et tout ça, mais il y a aussi tout ce qu'on a accumulé dans notre enfance, dans notre adolescence, comme croyances. Et ces croyances n'ont jamais été construites par hasard. C'est-à-dire qu'elles nous ont servi à quelque chose à un moment donné. Sauf que ces croyances, il faut les revisiter régulièrement pour savoir si elles nous servent toujours aujourd'hui. Et on s'aperçoit quand on fait cet exercice que souvent, certaines croyances sont très obsolètes. Certaines croyances nous tirent vers le bas et nous empêchent de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est un petit peu dommage.
Alors, ces croyances, on les a en soi. D'ailleurs, dans votre livre, elles sont revenues parfois. Dans votre parcours, elles sont revenues vous faire du mal. Mais elles viennent de soi, mais elles sont induites aussi par la société. Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous aussi, à un moment donné? Alors, je ne vous parle pas que du monde dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, en tant que citoyens, tout con, pour pouvoir être plus ouvert à ces différences-là?
Je pense qu'une partie de la réponse est dans la bienveillance.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on devrait tous aller chercher le meilleur de ce qu'il y a chez la personne en face de nous. En fait, nous avons tous dans notre vie vécu des choses positives, mais aussi des choses négatives. Et ce sont souvent les choses négatives qui façonnent le regard que nous portons sur les autres. Et qu'on nous fait tomber ces croyances négatives que nous avons sur les autres, c'est-à-dire tout le monde est méchant, c'est-à-dire tout le monde est jaloux, tout le monde est ci, tout le monde est ça, etc. vous s'autorisez à faire des rencontres de cœur à cœur. Et quand vous faites ce type de rencontre, mais vous n'avez plus du tout envie de revenir en arrière. C'est-à-dire que en fait, vous allez parler à la personne dans sa profondeur, dans sa richesse. Et là, vous allez vraiment avoir de l'authenticité en face. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'à la fois, cette personne différente de vous vous ressemble. Et à la fois, vous apporte des choses nouvelles qui vous permettent de voir en vous de nouvelles capacités ou de nouvelles envies. Et ça, peut que c'est à cas d'eux qu'on devrait se faire à soi-même beaucoup plus souvent.
Alors, ça nécessite pour ça de l'ouverture, de la confiance et de faire tomber la peur.
Exactement.
Et parfois, c'est dommage, nous, on n'aime pas ça dans notre émission, on lutte contre ça, mais parfois, on a peur de la différence.
Mais bien sûr, et c'est normal d'avoir peur de la différence, mais qu'en fait, cette peur relève de deux choses. Elle relève évidemment de la peur de quelque chose qui n'est pas forcément ou très joli à voir ou très joli à entendre. Mais surtout, elle relève de la peur de mal faire, d'être mal à l'aise et que l'autre le perçoive, ou de mal agir et que ça blesse la personne. Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous exprimez quelque chose en disant « je suis dégoûtée », voilà ce que je ressens, comment je peux faire pour vous aider, comment je peux faire pour que ça se passe bien entre nous. La personne en face de vous a toujours la réponse. Et quand vous avez vu la réponse à cette question, vous verrez vos peurs disparaître instantanément. En fait, c'est la peur de l'inconnu.
C'est ce que vous dites aussi à ceux qui vous contactent et qui ont des pensées limitantes, c'est de leur dire n'ayez pas forcément peur des personnes dites dans la norme parce qu'elles ne vous veulent pas de mal non plus. Ça va dans les deux sens.
Bien sûr. Bien sûr, et puis je trouve que ça vous permet aussi de sortir de votre zone de confort.
Bien sûr.
Et de vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues jusqu'à présent. Et peut-être qu'on est dans une société où on a besoin de vivre des aventures pour après avoir des choses à raconter à nos petits-enfants.
Et en plus, on s'emmerde tellement en ce moment que c'est quand même bien d'être en contact les uns avec les autres. C'était un plaisir de vous rencontrer, Virginie de Dalande. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je conseille votre livre à ceux qui nous écoutent, Abandonnez jamais aux éditions Kawa, de s'intéresser à Handicap Power, dont vous êtes la fondatrice. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, de vous recevoir à nouveau. Je vous embrasse, puisqu'on peut le faire à distance comme ça, dans un studio. Voilà.
Un bras très très fort.
Ouais, moi aussi, je vous donne une étreinte. Voilà, je vous prends dans mes bras. Merci beaucoup, Virginie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je sais que vous avez trouvé ça passionnant, évidemment. On se retrouve demain, 14h30. On parlera d'amour et des attentes dans le couple. Bah oui, hein, on est tous égaux hein, face à l'amour. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à demain sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre.